they say that they have got the battle won. Said, forgive them, Lord, they know not what they've done.
Se nomme Alex Kralin, il est journaliste, activiste, environnementaliste que nous avons rencontré à la COP28 à Dubaï, mais bien avant il est même ici en Côte d'Ivoire, et cela nous permet de recevoir Didier Blé. Il est important de militer justement pour l'environnement, n'est-ce pas Didier?
Tout à fait, il est important justement de sauvegarder la planète.
C'est ça.
Et puis toutes nos félicitations justement pour le travail abattu à Dubaï, et je vous vois tout beau avec votre costume tout blanc de prince émirati.
Merci bien Didier Blé, vous êtes en vert justement, ça note l'engagement pour la sauvegarde
de l'environnement. Tout à fait.
Pour les 7h, Didier Blé sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, il est 7h. Le journal de 7h, Didier Blé.
Toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette première session d'information. Bonjour à tous et bienvenue. Signature ce jeudi à la primature entre la Côte d'Ivoire et la France d'un accord financier pour le développement du système judiciaire ivoirien. L'acte s'inscrit dans la troisième phase du C2D. Désormais, les Ivoiriens pourront emprunter à la banque avec en garantie un titre hypothécaire. Eh bien, information relative au code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, nous en parlerons dans cette édition. En page africaine au Sénégal, le juge du tribunal d'instance de Dakar vient d'annuler la radiation de la liste électorale d'Ousmane Sonko. Et dans ce journal, vous entendrez l'avocat d'Ousmane Sonko, Maître Bamba Cissé. La revue des titres vous sera présentée par Francis Cassie vers la fin de cette édition. Et puis, temps fort de ce journal, dernier temps fort naturellement, l'invité de la rédaction. L'invité ce jour est Geoffroy Julien Kouao, juriste analyste politique. Interrogé par Francis Cassie, il reviendra sur la mesure de contrôle judiciaire, un sujet qui fait référence à l'actualité judiciaire liée à Maurice Kakoubi Kayé et Pascal Fenguissant. À tous. La Côte d'Ivoire et la France ont signé ce jeudi 14 décembre à la primature un accord financier pour le développement du système judiciaire ivoirien d'un montant d'à peu près 25 milliards de francs CFA. L'acte s'inscrit dans la troisième phase de leur plateforme de collaboration appelée contrat de désendettement et de développement, en abrégé C2D. Et à cette occasion, les deux partenaires ont fait le bilan financier de 10 ans de collaboration. Francis Cassie.
C'est le premier ministre ivoirien lui-même qui, dans son propos d'ouverture de la cérémonie, a fait l'annonce de la signature de cet accord financier pour le projet dit Justice 3e C2D. Robert Beugré Mambé.
Nous procéderons à la signature de la convention d'affectation justice du 3e CDD d'un montant de 24 milliards 500 millions par M. le ministre des Finances et du Budget ivoirien et le directeur Afrique de l'AFD.
Et ce projet Justice 3e CDD qui doit recevoir l'appui financier de la France, a été un peu expliqué par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard.
Nous sommes sur le point de signer une nouvelle convention de financement portant sur la troisième phase d'appui renforcement du système judiciaire et pénitentiaire ivoirien. Ce projet prévoit notamment l'érection de cité de la justice commerciale à Grand Bassam, la construction d'une cour d'appel à Boaké ou encore la construction de l'équipement des logements des gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt de correction de Guiglo.
Et Beugré Mambé d'indiquer ce que, en une décennie, le contrat de désendettement et de développement, en abrégé CLED, a apporté à la Côte d'Ivoire.
Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, nous avons signé 3 contrats de désengagement et développement pour un montant de 1902 milliards de francs CFA, dont le premier a été signé le 1er décembre 2012.
Après la revue des deux premières phases du CLED, les perspectives sont bonnes et confirment notre foi en un avenir meilleur pour les populations, a conclu le chef du gouvernement ivoirien.
Les membres de la Cour de cassation ont renforcé leurs capacités les 11 et 12 décembre 2023 au cours d'un atelier de formation au Centre de formation continue de l'INFJ, l'Institut national de formation judiciaire. Il était question de réfléchir sur la loi organique portant sur l'avant-projet de loi du règlement intérieur de la Cour de cassation en vue de son adoption, cela afin de permettre le bon fonctionnement de cette institution. Jean-Mélène Bitti.
Au terme de cet atelier de réflexion, Yua Kofi, président de la Cour de cassation, est revenu sur l'objet du renforcement des capacités des membres de la Cour de cassation.
Il n'y avait pas de règlement intérieur depuis que la Cour de cassation est devenue une institution depuis 3 ans. Donc il fallait mettre en œuvre ce règlement intérieur qui est pratiquement le point de départ des activités effectives de la Cour de cassation. Non pas qu'elle ne fonctionnait pas, mais elle ne fonctionnait pas comme cela devait être. C'est pour cette raison que le règlement intérieur est un élément important. Et le règlement intérieur s'élabore et s'adopte en Assemblée Générale.
Sur les actions prochaines de la Cour de cassation pour son fonctionnement après l'adoption par l'Assemblée nationale de l'avant-projet de loi sur le règlement intérieur de cette institution, Yua Kofi.
Il s'agit de faire en sorte que les dossiers puissent être rapidement soldés par une décision de justice au niveau de la Cour de cassation. Il faut renforcer le nombre d'audiences que la Cour de cassation tient par mois. Jusqu'à présent, c'est une seule audience par mois. Nous allons passer à 2. Ensuite, il y aura une multiplication des formations de jugement. Il y avait seulement 2 formations. Nous allons passer à 7 pour multiplier la sortie des dossiers. Nous aurons la chambre pénale, la chambre sociale et la chambre présidentielle.
En poste depuis 3 mois, en tant que président de la Cour de cassation, Yua Kofi vient de franchir une nouvelle étape pour renforcer son institution avec l'avant-projet de règlement intérieur.
Merci à vous, Mélène. Désormais, les Ivoiriens pourront emprunter à la banque avec en garantie un titre hypothécaire. C'est l'intérêt du projet de loi que viennent d'approuver à l'unanimité les députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. Projet de loi de modification relatif au code de l'urbanisme et du dossier foncier urbain. C'était ce jeudi à l'Assemblée nationale en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Coné Bruno revient sur le contenu de ce projet de loi. Il est au micro de Junior Cardin.
En l'occurrence, ici, nous voulons sécuriser davantage le titre de propriété en milieu urbain, qui est l'ACD. Parce que nous avons noté, malgré la prise du code de l'urbanisme et du foncier urbain, que beaucoup de comportements déviants continuaient d'affaiblir la portée de ce document, alors que nous souhaitons en faire le titre définitif de propriété en milieu urbain. Donc nous avons aujourd'hui fait un certain nombre de propositions qui portent principalement sur la limitation du temps pendant lequel l'ACD peut être contesté. Ce temps désormais est limité à 4 mois. Mais bien entendu, on peut estimer que ce temps n'est pas suffisant. C'est pour cela que d'autres propositions ont été faites pour renforcer la publicité de toutes les étapes qui précèdent la signature de l'ACD. Donc désormais, cette publicité doit se faire dans les journaux d'annonce légale, dans le journal officiel, par affichage dans la sous-préfecture, dans la mairie, dans le village. Et une fois que l'acte est signé, le délai de 4 mois permet de clore définitivement toute possibilité de remise en cause. L'intérêt de cela, c'est la possibilité de renforcer le crédit hypothécaire dans notre pays. Nous savons tous l'intérêt économique du crédit hypothécaire, mais ce crédit hypothécaire ne peut pas fonctionner dans un contexte où les titres de propriété peuvent être facilement remis en cause. Donc aujourd'hui, nous voulons donner la possibilité aux Ivoiriens d'emprunter en donnant à garantie un titre hypothécaire sur un bien qui leur appartient.
C'était le ministre Colin Bruno, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, lance la 2e phase du projet ACEL Africa, accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique. Le travail des enfants dans la cacao culture et l'extraction minière artisanale sont en point de mire dans ce projet. Un atelier d'information des principales parties prenantes s'est tenu ce mercredi à Abidjan. Junior Cardin.
Le projet ACEL Africa, dans son ensemble, concerne 6 pays en Afrique. Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria et Ouganda. Au dire du directeur pays du BIT, Frédéric Laperle, à l'ouverture de l'atelier.
L'objectif général poursuivi par la phase 2 du projet ACEL Africa est d'accélérer l'élimination du travail des enfants en Afrique par le biais d'actions ciblées dans certaines chaînes d'approvisionnement. En Côte d'Ivoire, le projet contribuera à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cacao et de l'or. Il permettra d'aider le pays à faire face au défi du travail des enfants dans l'exploitation minière artisanale et dans la cacao culture.
L'État ivoirien, pour sa part, a salué le lancement de la 2e phase du projet ACEL, vu les défis qui se dressent face à la lutte contre le travail des enfants. Ngetia Martin, directeur de la lutte contre le travail des enfants au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
L'État a fixé donc le cadre, a fixé donc les orientations. Nous connaissons donc nos défis, nos contraintes, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions et c'est ensemble que nous allons pouvoir vraiment réussir ce pari. Et donc le projet va nous être présenté et il nous appartient d'orienter les porteurs vers nos centres d'intérêt, vers les réponses que nous attendons pour nous aider à mieux réussir le pari de l'éradication du travail des enfants. Faire en sorte que Axel 2 soit totalement aligné avec les directives nationales et avec vraiment nos attentes, et je voudrais vraiment compter sur vos contributions.
35 participants issus des structures gouvernementales, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs ont pris part à cette rencontre dont les résultats des réflexions sont attendus par le gouvernement.
Parlons de sécurité dans cette édition. 21 individus interpellés et déférés devant les tribunaux pour des faits de criminalité. Plusieurs armes de guerre saisies, ainsi que 57 personnes tuées en l'espace de 11 mois et demi dans la ville de Yamoussoukro du fait de l'incivisme routier. Ce sont entre autres quelques résultats enregistrés par la police de Yamoussoukro dans le cadre de l'opération Vacances Sécurisées, débutée en juillet 2023, opération qui a pris fin le mardi 12 décembre pour se muer en opération Épervier 9, une opération lancée par les autorités administratives et sécuritaires locales. Des détails avec vous, Emiliao.
Le préfet de police de Yamoussoukro, le commissaire divisionnaire major Binaté Youssouf, a dressé à l'occasion le bilan de l'opération Vacances Sécurisées débutée en juillet dernier.
Nous avons 21 individus interpellés et déférés pour des faits de criminalité. Nous avons saisi des armes de guerre, des kalachnikovs, des fusils calibre 12, des machettes, des couteaux, des paires de ciseaux. 52 personnes impliquées dans la consommation et dans la vente de la drogue ont été déférées par le parquet de Toumoli. 100 kg de cannabis, 20 g d'héroïne, 16 g de cocaïne et 3200 comprimés de tramadol saisis.
Concernant la lutte contre les incivilités et l'incivisme routier, des efforts restent à faire au regard de l'ampleur de la situation, déplore Binaté Youssouf.
De janvier jusqu'à maintenant, nous avons dénombré 914 accidents. Nombre de véhicules impliqués, 1180. Nombre de blessés, 1114. Malheureusement, 57 morts pour la seule ville de Yamoussoukro. Nous avons déféré 85 indisciplinés, c'est-à-dire ceux qui causent ces accidents. Et ces accidents sont causés par le non-respect du code de la route.
En procédant au lancement de l'opération Épervier 9, opération de sécurisation des personnes et des biens, le préfet de région, Koulibaly Gando, a invité la population à davantage de coopération avec les forces de sécurité.
Les résultats obtenus sont aussi dur à vous, chère population. Et je voudrais vous demander de faire encore plus, de soutenir vos forces pour qu'elles continuent de vous protéger efficacement.
La répression va monter d'un cran, a d'ailleurs prévenu le préfet de police Binaté Youssouf. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Actualité sur le continent. Au Sénégal, le juge du tribunal d'instance de Dakar vient d'annuler la décision, la radiation de la liste électorale d'Ousmane Sonko. Selon la décision du juge, la radiation d'Ousmane Sonko est illégale. Alors son nom doit être réinscrit immédiatement sur la liste électorale au Sénégal. Pour l'avocat donc de l'opposant sénégalais, Maître Bamba Cissé, la décision qui a été rendue ne peut pas être suspendue par un pourvoi. Nous l'écoutons.
Le juge du tribunal d'instance de Dakar a comblé ce point-là qui a été cassé et donc a donné raison finalement à Ousmane Sonko et à ses avocats en disant que sa radiation était illégale en ordonnant sa réinscription immédiate sur les listes électorales. Cette décision donc donne droit à Ousmane Sonko de participer à la présidentielle de 2024 et de concourir à la compétition. Comme je l'ai dit, nous estimons que c'est une décision très heureuse, extrêmement importante pour la marche de la démocratie et aujourd'hui aucune partie n'a triomphé, c'est le peuple sénégalais qui a triomphé, puisque la justice s'est aujourd'hui réconciliée avec le peuple. Pour moi, c'est important et le juge qui a rendu la décision, à l'instar de ses collègues, est définitivement entré dans l'histoire.
Quel est votre prochain combat?
On attend l'État pour voir s'il va se pourvoir à nouveau en cassation. Et je rappelle que si aujourd'hui l'État fait un nouveau pourvoi, ce pourvoi sera examiné par l'ensemble des juges de la Cour suprême, ce qu'on appelle le pourvoi en chambre réunie. Mais il n'y a pas d'espoir à ce niveau, parce que de toute façon, le juge du tribunal d'instance a aujourd'hui comblé le vide qui manquait à l'affaire et en annulant la radiation, cette décision-là devient pratiquement, entre guillemets, incassable. Même si l'État forme un pourvoi, la décision sera exécutée, Ousmane Sonko sera réintégré. Parce que celui-là qui n'est pas privé de ses droits civiques et politiques est candidat de fait et de droit.
Voilà, c'était Maître Bamba Cissé, avocat de l'opposant et homme politique sénégalais Ousmane Sonko. Il était interrogé par Constant Maïlé. Sans transition, tout de suite retrouvons pour la revue des titres Francis Cassi. Francis, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Seulement deux candidats s'affronteront demain pour l'élection du nouveau président du PDCIRDA avec un favori, à en croire les titres de vos journaux de ce vendredi. Et à ce propos, le nouveau réveil coupe la poire en deux. Présidence du PDCIRDA, encore et toujours des soutiens à Tiam. Jean-Marc Yassé sur la dernière ligne droite avec confiance. Pareil pour notre voix qui demande. Tiam ou Yassé, qui pour succéder à Bédier? Mais pas de duel en tant que tel, en réalité, entre ces deux candidats. Titre pour sa part, le sursaut. PDCIRDA, 8e congrès extraordinaire du 16 décembre 2023, le hold-up presque parfait de Tidiane Tiam. Entre-temps, sur le volet sécuritaire de cette élection demain du nouveau président du PDCI, l'intelligent d'Abidjan annonce de façon sibylline. Peur sur la sécurité de Bombay, Guy Kayoué, Tiam, Yassé, Bian et Tano. Avant que, à quelques heures de ce 8e congrès extraordinaire, l'interne se fasse l'écho de propos ci de professeur Kopliboni, président par intérim du PDCIRDA. Je me rends compte que le consensus est difficile à obtenir. Ce même samedi, des élections ont aussi lieu au PPACI, d'après le quotidien d'Abidjan. Élection des responsables des ligues du PPACI, jour de vérité à Ouragayou demain. Ce que corrobore le temps disant « Congrès des ligues des femmes et des jeunes du PPACI ». Voici le mode de scrutin, ainsi que la voix originale sur les différents adversaires. Congrès électif ligue des femmes et des jeunes, tous les candidats engagés pour le PPACI. Autre sujet dans cette revue des titres, la colère du chef de l'État ivoirien contre la fraude sur les papiers ivoiriens que rapportent certains tabloïdes, notamment le Jour Plus indiquant carte d'identité, passeport, Ouattara lance la guerre contre les faussaires. Ce sur quoi renchérit l'expression avec fraude sur les documents administratifs, Ouattara exige des poursuites contre les faussaires. La sécurisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire se lit également sur vos quotidiens avec Fraternité Matin, Barin ainsi, sa une. Situation sécuritaire CAN 2023. Les décisions du Conseil national de sécurité. Pour la sécurisation de la CAN en Côte d'Ivoire, 17 000 FDS mobilisés, précise de son côté le patriote. Ce qui fait écrire le matin ceci. Réunion du Conseil national de sécurité hier. CAN 2023, le plan de sécurisation bouclé. Et nous terminons la revue des titres de vos quotidiens de ce jour par la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Pour la nouvelle alliance, après la réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste électorale au Sénégal, la justice ivoirienne attendue sur le cas Gbagbo. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous également, Francis. À présent, l'invité de la rédaction. Ce jour est Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, parlant de l'actualité judiciaire liée à Maurice Kakou-Guikaye, secrétaire exécutif en chef du PDCI, et Pascal Afinguessan, président du FPI. Il explique la mesure de contrôle judiciaire comme la surveillance par la justice de quelqu'un qu'elle soupçonne d'avoir commis une infraction, tout en indiquant pour autant qu'elle ne le prive pas des privilèges que la loi accorde à tous les citoyens. Francis Cassis est toujours avec nous, c'est lui qui interroge Geoffroy Julien Kouaou.
Geoffroy Julien Kouaou, bonjour.
Bonjour Francis Cassis.
C'est quoi être sous contrôle judiciaire?
Lorsque un mis en cause dans la commission d'une infraction est devant le juge d'instruction, celui-ci a trois possibilités. D'abord, il peut prendre une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire il classe l'affaire parce que l'affaire ne constitue pas à ses yeux une infraction. Et deuxième chose, si il pense que le fait peut être qualifié de crime ou de délit, par exemple, et qu'il y a des forts soupçons de culpabilité sur le mis en cause, il prend un mandat de dépôt, c'est-à-dire un mandat d'incarcération, et le mis en cause est détenu provisoirement en prison jusqu'à son jugement. Et troisième possibilité, c'est qu'il pense que le mis en cause a vraiment commis l'infraction, mais il lui faut poursuivre les enquêtes, et en attendant, il met donc le mis en cause en liberté. Cependant, il prend des mesures restrictives quant à un certain nombre de libertés. Par exemple, il lui dit « Tu ne peux plus voyager sans mon autorisation, tu ne peux plus aller dans tel lieu sans mon autorisation, tu ne peux pas exercer certaines activités sans mon autorisation et tu dois chaque jour ou bien chaque semaine ou bien chaque mois te présenter à mes services pour que je sache que tu es là. Et cette troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire.
Et vous savez qu'à l'issue des événements par rapport à l'élection présidentielle de 2020, il y a eu des personnalités politiques qui ont été mises sous contrôle judiciaire, notamment le président du FPI, Pascal Afinguessin, et un des cadres du PDCI, Maurice Kakou Dikayoué. Et voilà que leur contrôle judiciaire vient d'être levé. Vous êtes au courant?
Oui, mais parce qu'à tout moment, ils peuvent demander la levée de ce contrôle judiciaire. Le juge peut penser qu'après avoir approfondi ses enquêtes, il n'y a plus lieu de considérer que ces personnalités-là ont commis l'infraction qui leur est reprochée et qu'il faut relativiser ce contrôle et leur laisser leur liberté parce qu'ils ne constituent pas une entrave pour la poursuite de l'enquête.
Mais cela a fait polémique dans la presse et sur les réseaux sociaux, comme quoi ces personnalités ont eu leur contrôle judiciaire levé parce que soupçonnées d'être en collusion avec le régime en place.
On ne va pas commenter les rumeurs. Il est évident que concernant M. Dikayoué, par exemple, il y a une coïncidence avec l'actualité au niveau de son parti qui fait croire aux uns et aux autres qu'il y ait connivence entre le pouvoir en place et M. Dikayoué. Bon, ça, ce ne sont que des supputations, des rumeurs, et il ne faut pas leur donner trop d'importance.
Mais quand est-ce que ce contrôle judiciaire peut être légal, légitime quand il est pris, et quand est-ce qu'il peut être politique?
Non, le contrôle judiciaire est avant tout un acte judiciaire. C'est une ordonnance du juge d'instruction, le juge enquêteur. Vous savez, lorsque une personne commet une infraction, on l'envoie d'abord à la police. 48 heures après, on l'envoie devant le procureur de la République. Et le procureur de la République décide de le poursuivre. Mais comme le procureur n'a pas tous les éléments pour accuser le mis en cause, il va saisir par un réquisitoire introductif le juge instructeur qui est le juge d'instruction. Et le juge d'instruction, lui, va examiner la situation et après avoir interrogé la personne à la mise en cause, va décider du contrôle judiciaire. Ça n'a aucun relent politique, évidemment, je comprends très bien que M. Pascal Afinguessin et M. Dikayoué sont des hommes politiques, donc on pourrait penser que leur inculpation et ensuite leur mise sous contrôle judiciaire peut avoir des relents politiques. Je ne le pense pas. C'est un acte purement et simplement judiciaire.
Mais pour les réseaux sociaux et une partie de la presse, c'est le timing où le contrôle judiciaire a été levé, le moment.
C'est une pure coïncidence parce que M. Dikayoué, si on voit bien, avait déjà introduit sa demande de fin de contrôle judiciaire déjà au mois d'octobre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui accuser les autorités judiciaires d'activisme politique concernant M. Dikayoué.
Est-ce que vous avez souvenance, vous, en tant qu'analyste politique, que le contrôle judiciaire a pu être quelque part une arme politique? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde.
Moi, en tant que juriste et analyste politique, je ne fais que me coller aux tests et aux faits. Et je pense que, dans l'espèce, il est fort probable qu'il n'y ait pas eu connivence entre l'autorité politique et l'autorité judiciaire. Il y a eu simplement coïncidence d'agenda, et évidemment, ça donne lieu à interprétation.
Parlons maintenant des conséquences du contrôle judiciaire. Pour le citoyen simple, le citoyen lambda, sur ses activités, et puis pour le politique également, sur ses activités.
Il faut dire que le contrôle judiciaire ne prive pas un individu de ses droits civils, civiques et politiques. C'est-à-dire que quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous n'avez pas encore été jugé. La procédure est pendante. Donc, vous êtes toujours présumé être innocent. Donc, on ne peut pas vous retirer votre droit en tant qu'électeur, votre droit pour être candidat à une élection. La preuve, M. Dikayoué était sous contrôle judiciaire, mais il était bel et bien candidat aux différentes élections au nom du PDCI-RDA. Seule une décision finale, définitive de justice peut priver un individu de ses droits civiques et politiques. C'est pourquoi je n'ai pas trop bien compris l'attitude du PDCI qui aurait rejeté la candidature de M. Dikayoué au motif qu'il était sous contrôle judiciaire. Heureusement que d'autres communiqués ultérieurs venant de la direction du PDCI ont infirmé cette information.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Francis Cassi.
Pour ce vendredi matin, Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, qui était l'invité de la rédaction avec Francis Cassi, il revenait sur la mesure de contrôle judiciaire, entretien qui referme ces 7 heures. Le rappel des titres. Signature ce jeudi à la primature entre la Côte d'Ivoire et la France d'un accord financier pour le développement du système judiciaire ivoirien. L'acte s'inscrit dans la troisième phase du C2D. Désormais, les Ivoiriens pourront emprunter à la banque avec en garantie un titre hypothécaire. Information relative au code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Vous avez entendu dans cette édition Bruno Connet. Et puis en page africaine au Sénégal, le juge du tribunal d'instance de Dakar vient d'annuler la radiation de la liste électorale d'Ousmane Sonko. Dans ce journal, vous avez entendu l'avocat d'Ousmane Sonko, Maître Bamba Cissé. Merci de nous retrouver. Excellent début de week-end à tous et à toutes. Dans quelques instants, Ghislain Koulibaly sera avec vous pour la suite des Matins de la Paix.